avec Jumelage Actualité que vous entendez actuellement sur RDIWA, que vous pouvez aussi écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jackie Trémouille. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes adhérente de DIWA Jumelage.
Oui.
Ensuite, nous avons Alain Gourdol. Bonjour.
Bonjour.
Vous-même adhérent aussi.
Oui, adhérent à DIWA Jumelage.
Et nous avons aussi Gilberte Isoard, qui est coordinatrice du conseil d'administration de DIWA Jumelage.
Bonjour.
On va peut-être aborder ce qui a été déjà fait avec la localité de Douguet à Soutouta, par exemple, avec cette mission d'installation de pompes solaires.
Donc en fait, le projet a commencé en 2009 avec l'installation d'une clôture autour d'un jardin potager pour que toutes les femmes des courées du village de Soutouta puissent jardiner. Clôture nécessaire parce que sinon le jardinage est mangé par les bêtes sauvages ou par les troupeaux. Donc cette clôture a été installée en 2009 et à la suite de cela, après évidemment des études et des rencontres et les communications ne sont pas toujours très faciles, on a décidé d'installer une pompe et une pompe solaire au puits qui jouxte le jardin. Donc en l'année dernière, il y a eu une mission en novembre-décembre 2015 et à la suite de cette mission, la pompe solaire a été installée au mois de mars 2016. Le 9 mars 2016, l'eau coulait grâce à la pompe solaire qui pouvait alimenter le jardin qui était construit au milieu du jardin potager. Donc toutes les femmes, puisque c'est les femmes qui jardinent, pouvaient venir se servir de l'eau. Et à cette occasion aussi, les villageois ont désiré construire un abreuvoir pour pouvoir utiliser aussi la pompe solaire pour pouvoir alimenter, pouvoir abreuver les animaux. Donc là, ils avaient construit eux-mêmes un abreuvoir à côté du puits. Et voilà, donc cette pompe pouvait remplir soit le bassin pour le jardinage, le maraîchage, soit l'abreuvoir pour alimenter les bêtes.
Voilà. Cette terre, elle est aride actuellement ou alors elle est riche en éléments pour...
Toutes les terres, tous les maraîchages dans la grande partie d'Afrique, hein, ce n'est pas que le Sénégal, dans d'autres pays africains c'est pareil, tous les maraîchages sont toujours installés, ce qu'ils appellent là-bas, dans les bas-fonds. Les bas-fonds, c'est donc des endroits où il y a les alluvions, quand il y a des grosses pluies, donc l'hivernage, ça vient apporter tous les limons qui arrivent des autres parties des terrains. Et donc ces terrains-là sont donc souvent assujettis ou traités en maraîchage. Et c'est souvent donc des associations de femmes qui les gèrent. Donc c'est pour ça qu'il y a les clôtures aussi, aussi pour les animaux, mais aussi parce qu'elles veulent être autonomes dans leur maraîchage. Là, sur Soutouta, elles sont 200, je crois, si je ne me trompe pas bien, doit être à peu près dans ce nombre de personnes. Mais la terre, d'une manière générale, même ailleurs, où on a quand même pas mal visité, est quand même assez riche. Est assez, le seul souci, c'est qu'il faut apporter de l'eau pour pouvoir récolter quelque chose. Mais par contre, l'eau est quand même assez peu profonde sur cette partie-là du Sénégal. Donc c'est aux environs, on dira, entre 15 et 20 mètres de profond, ce qui n'est pas très très important pour maintenant techniquement. Quoi. On a plein de solutions pour sortir de l'eau, même beaucoup plus profond. Donc cette réalisation aussi, moi je rappelle qu'elle a été entièrement financée par DIWA Jumelage, cette pompe à énergie solaire.
Donc on parle surtout du petit village de Soutouta. C'est ça, où a été installée cette pompe solaire. Ça permet à combien de populations de vivre?
Oui, quand vous dites petit village, je vous corrige un petit peu, c'est quand même un village de 2000 habitants environ. L'ensemble de la commune de Douguet compte environ 12 000 habitants et il y a donc 16 villages. C'est-à-dire que c'est quand même assez étendu, c'est pas une région très peuplée, mais la possibilité de jardiner, de cultiver est essentielle pour la survie de ces populations.
Ce qui est important surtout, c'est que pendant la saison sèche, ils peuvent manger des légumes frais. Et au niveau hygiène et santé, c'est une grande amélioration de la vie de ces personnes.
Oui, alors moi je rajouterais que pourquoi Sotouta ? Tout simplement parce que je pense que c'est un problème de personne. Ça doit être des gens qui sont très motivés dans un village, peut-être un peu moins ailleurs, et peut-être qu'ils sont un peu plus près ou plus proches de la communication avec donc les Occidentaux, avec bon, les Français, les Diouais jumelages. Mais il y a d'autres villages qui sont demandeurs et qui sont en attente encore. Hein.
Et nous allons aborder ensuite les nouveaux objectifs hein, consécutifs à cette pompe solaire. Il y a aussi l'idée d'amener des retenues d'eau pour pouvoir avoir de l'eau toute l'année, je suppose.
C'est complètement différent par rapport à une adduction d'eau par pompe. C'est plutôt des surfaces cultivables qui sont assez éloignées des villages, où donc il y a possibilité de faire des mini-barrages sur des ouèdes. Et pour augmenter la surface cultivable d'une façon très 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 conséquente, c'est-à-dire qu'entre quelques mètres carrés, on peut passer à 1-2 hectares, c'est fonction des pluies, ça, nous ne le maîtrisons pas. C'est surtout pour ça. Et donc il faut, on en parlera peut-être après, il y a une petite dissociation sur les deux projets qu'ils nous ont présentés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un véritable mini-barrage et l'autre c'est plutôt passage à gué mini-barrage, pour des raisons que peut-être mes collègues vous diront. Voilà la différence, c'est complètement autre chose des retenues d'eau. Cette eau, elle part, il pleut sur 1,5-2 mois la quantité d'eau de l'année. Et donc quand il n'y a rien qui la retient, l'eau, ben, elle s'en va tout simplement. Hein. Et là, on arrive à augmenter sur la durée, on va dire, entre 4 et 6 mois de culture possible. Donc, c'est énorme quoi, pour eux. Ils peuvent faire une riziculture, ils peuvent faire plein de choses. C'est surtout dû donc, à la chaleur de cette région, qui est quand même très élevée. Quand nous y étions, on était entre 35 et 38 degrés de moyenne. Avec de l'eau, ben, vous pensez que le riz ne met pas longtemps pour avoir une récolte. Dans quelques mois, quelques semaines, on a vu la différence sur les oignons, par exemple, sur les salades. Voilà, ça pousse très, très, très vite par rapport à nous. Quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant et c'est pratiqué pratiquement dans tous les aussi pays africains. Hein, donc les retenues d'eau sont très très anciennes. Bon, il y en a des très grandes, il y en a des très petites, il y a de tout ce qu'on veut. Donc comme dit Ouais Jumelage, c'est une petite équipe, on s'est orienté vers on va appeler ça des mini-barrages pour nous. Quoi.
Pour un mini-barrage, ils sont de quelle dimension environ?
Donc sur le mini-barrage, on va être sur des hauteurs d'eau retenues de 1,80 m à peu près, et sur 8 à 10 mètres de large. Mais par contre, la surface du sol étant très plate, on va remonter très très loin, on va donc inonder des hectares de terrain qui jusqu'à maintenant ne voyaient que passer l'eau. Quoi. Et ce n'est pas des grands volumes. On va décaisser, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est un dossier quand même assez complexe. Et puis la principale responsable et technicienne n'est pas là, je ne suis que le relais, et on va évacuer des terrains pour augmenter la quantité d'eau. Sur celui-là, celui qu'on appelle le mini-barrage de Sotouta, on va être dans l'ordre de 7000 à 8000 mètres cubes de retenue d'eau, ce qui est quand même pas négligeable. Et aussi, on parle de culture et de maraîchage, mais c'est très important aussi de fixer les troupeaux qui seront loin des villages et un peu loin. Quoi. Et ça évite la pollution des autres puits qu'il y a dans les villages. Ça, c'est très, très important. Donc, pendant quelques mois, les animaux peuvent venir boire aussi dans ces retenues d'eau. Et pour le deuxième cas, donc, c'est un mini-barrage, mais c'était un problème pour le maire qui nous a vraiment appuyé très, très fort sur cette demande. C'est entre deux villages, donc Sintoufoulé et Sangadji, où donc, pendant 1,5 mois, des fois 2 mois, le temps des pluies, ils ne communiquent plus, ils ne peuvent plus être livrés de toutes les marchandises qu'ils ont besoin. Et donc c'est un passage à gué qui était sa demande. Et après quelques réflexions, et puis on est parti dessus, même si la professionnelle technicienne que nous avons est pas trop a jamais réalisé ça. Donc on va y arriver. Et puis peut-être qu'après on en parlera grâce aussi au contact que nous avons eu au Sénégal avec des professionnels de ce genre d'opération.
Justement, en parlant de professionnels de ce genre d'opération, vous demandez à des entreprises locales de concevoir ces initiatives.
Hein. Donc là, pour l'instant, nous avons été là-bas que pour mener l'étude, uniquement l'étude. Et puis donc rencontrer tous les organismes officiels déjà du sénégalais, donc leur agence d'environnement, les gestions de l'eau, ils sont aussi comme en France, il y a plein de structures différentes, il y en a surtout trois importantes et nous les avons rencontrées toutes les trois, donc il faut leur communiquer que nous allons éventuellement réaliser ce genre de projet pour qu'ils aient d'abord l'information et puis qu'ils donnent leur feu vert. Et après, donc, le hasard a fait que nous avons rencontré une ONG qui est installée depuis très longtemps à Tambacounda et qui gère ce genre de problème. Parce qu'il faut après avoir quelqu'un sur place pour commencer la préparation de ce type de travaux, mais surtout avoir après un suivi, quoi, avoir la réalisation. Nous n'allons pas prendre l'avion tous les mois pour aller voir si le chantier se mène comme il faut. Nous n'avons pas les moyens, quoi. Et c'était ça. Donc notre rencontre était, je pense, et j'espère, enfin, nous espérons, pardon, fructueuse par la suite, quoi. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont capables et compétentes pour mener ce genre d'opération. Souvent, quand même, nous avons rencontré des entreprises qui travaillaient sur des très grands projets. Les petits projets que nous proposons sont un peu moins convoités, ce qui est tout à fait logique, comme ici en France.
Je voudrais revenir quand même à cette installation de pompes solaires. Quel en a été le bénéfice pour ces collectifs de femmes?
Eh bien, de ce qu'on a pu voir quand on est arrivé là-bas au jardin et au village, on a été accueillis avec un enthousiasme qui est effectivement le même à chaque fois, mais cette fois-là, ils savaient qu'effectivement, on avait apporté quelque chose de plus. C'est que cette pompe solaire a permis aux gens de cultiver avec une plus grande facilité, parce que les femmes jusque-là tiraient l'eau à la corde, voire les enfants, et que là, elles pouvaient aller... parce qu'il faut savoir que le jardin, la culture au jardin, on y va après les récoltes au champ. Donc là, elles étaient juste sur la fin de la période des récoltes et elles rentraient du champ le soir et aller au jardin après, alors qu'il y a encore toute la famille à porter, c'est pas évident. Donc elles commencent à cultiver le jardin vers le mois de novembre, fin novembre, et là, elles brûlent tout le jardin pour pouvoir faire place nette. Et là, en peu de temps, chacune utilise sa parcelle, qui est de l'ordre de 5 à 8 mètres carrés. Chaque femme a une petite parcelle. Et elle, très vite, l'eau était à disposition. Elle prenait l'eau, selon des règles qui sont établies et respectées par tout le monde. Et elles n'ont plus qu'à apporter l'eau avec leurs bassines, des grandes bassines. Elles apportent l'eau sur leur petite parcelle, elles arrosent avec une petite tasse, de manière assez parcimonieuse, mais en fait tellement efficace que tout de suite, en une semaine, on a vu la différence. On est arrivé, c'était tout brûlé, et au bout d'une semaine, c'était tout vert. Donc on voit tout de suite l'efficacité, c'est beaucoup plus, ça enlève une grande pénibilité au travail, donc ça permet de cultiver beaucoup plus facilement et en plus grande quantité. Donc à terme, on pense qu'elles vont pouvoir aussi faire un petit peu de commerce avec ces petites parcelles.
Moi, je rajouterais par rapport à la pénibilité, ce qu'a dit Jackie, c'est quand on arrive, une grosse meute, c'est pas gentil, une grosse foule de femmes, donc maraîchères, elles sont là pour nous accueillir, et la présidente, je ne sais plus son prénom, excusez-moi. Là,
Fanta.
Fanta, ouais. Nous dit, tu sais pas, depuis que la pompe est là, j'ai plus mal à mes épaules. Ça, c'est beau, ça. Voilà.
Oui, non, je crois que rien que de voir avec quelle joie elles vont au jardin et elles nous y amènent, on a l'impression que c'était pas... Et d'ailleurs, on a vu tout de suite, dans un autre village, ils nous ont sollicité, ils sont venus nous démarcher en disant, viens voir chez moi, il y a aussi possibilité de faire un jardin et possibilité, il y a le puits, il y a tout ce qu'il faut, est-ce qu'on pourrait avoir une pompe solaire? Alors, on n'a pas vocation à payer des pompes solaires partout, mais je pense que c'est un projet qui mérite qu'on trouve des financements pour ça.
Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que souvent, les petites filles viennent aider leur maman pour tirer l'eau des puits pour le jardin. Et du coup, là, l'eau vient sans peine, sans argent, parce qu'elle est gratuite, sans bruit, sans odeur. Et les petites filles aussi peuvent aller à l'école. Je crois que ça, c'est aussi important de le dire. Comme les petits garçons qui, eux, sont chargés de tirer l'eau du puits pour abreuver les animaux. Donc, il y a aussi des répercussions importante, là, par exemple, sur la scolarisation des petites filles, puisqu'elles sont un peu libérées de ces tâches-là.
La distance entre la pompe et le jardin le plus éloigné, on pourrait l'estimer à combien ?
Ce n'est pas très loin, non. Parce que d'abord, ce n'est pas le jardin le plus éloigné, c'est une seule grande parcelle qu'elles sont amenées à même peut-être à agrandir du fait qu'elles peuvent arroser plus facilement. Donc, elles envisagent effectivement une extension. Et donc, elles y vont à pied depuis le village. Donc, ça fait 200-300 mètres.
Oui, oui, 400. Et le puits est à 10 mètres du maraîchage. Mmh. Il est à l'extérieur du maraîchage. Il y en avait un à l'intérieur. Je n'ai pas compris pourquoi on utilisait celui-là, pas de l'intérieur. Mais ça, c'était pas grave. Le puits était fait à l'extérieur. Nous, ça nous convenait bien. Parce qu'il n'utilisait pas de terrain pour mettre les panneaux solaires, par exemple. Je pense que la raison était un peu là. Il ne savait pas trop comment ça allait s'installer, comment ça allait, la réalisation allait se présenter. Et donc, en mettant sur le puits qui est extérieur, elle gardait toutes les parcelles utilisables, cultivables.
Donc, je voudrais dire aussi que Diwa Jumelage a payé la pompe solaire, mais la population locale a beaucoup participé à l'installation de la pompe. Et ça, c'est vraiment très, très important. Par exemple, c'est eux qui ont fait toutes les canalisations entre la pompe qui est à l'extérieur du jardin et le bassin qui est au centre du jardin. Ils ont aussi clôturé les panneaux solaires pour qu'ils soient protégés, aussi toujours pareil des bêtes qui passent. Et puis, ils ont construit l'abreuvoir qu'ils ont désiré avoir. Et ça, c'est la population qui s'est prise complètement en charge, qui a fait les travaux, qui a financé aussi. Et voilà, donc c'est aussi valorisé par cet apport. Le bassin aussi a été rendu
étanche.
Et tous ces travaux ont été faits vraiment à temps. Lorsque l'entreprise est arrivée pour poser la pompe, tout cela a été fait. Donc c'est important de travailler comme ça en relation avec la population.
Il faut dire que si c'est possible, c'est parce que les femmes sont organisées, comme l'ensemble des villageois sont organisées en groupements d'intérêts, en groupements de femmes ou sur des objectifs particuliers. Et donc à Soututa, il y a plusieurs associations de regroupement des villageois. Donc le jardin des femmes est géré par deux associations de femmes qui répartissent les parcelles, les mesures, etc. Organisent l'entretien de la pompe solaire parce qu'il y a peu à faire, mais quand même un petit peu de surveillance, ouverture ou non des vannes. S'il y a des choix ou des litiges à trancher, ça se passe collectivement. Et de la même façon, les projets de barrage que nous avons vont reposer sur l'organisation des villageois qui vont effectivement organiser en amont pour les travaux. Parce que déjà, ils ont travaillé, on n'en a pas parlé encore, comment ça s'est passé notre mission, mais il y avait tout un travail de débroussaillage à faire sur le territoire. Et les hommes ont été mobilisés, de par leurs organisations de regroupement, pour aller faire le débroussaillage. Et ils vont être encore mobilisés pour la construction et pour la maintenance après. Parce que les terres, il faut voir à qui elles vont appartenir, qui est-ce qui va cultiver, qui est-ce qui va récolter. Et donc, c'est à définir. Et tout ça se passe entre les villageois. Nous, a priori, on s'appuie sur ces organisations, mais on n'a pas de conseils à leur donner, ni de consignes.
Alors, pour les retenues d'eau, ça va être la même démarche. Donc, des rendez-vous, des réunions avec les responsables locaux. Et puis ensuite, une sollicitation auprès de vous pour voir quel soutien vous apportez.
Déjà, on a fait la première démarche, ça a été d'aller sur place, donc de prendre des contacts avec les autorités sénégalaises et puis de rencontrer la population, de rencontrer le maire et d'aller sur le terrain. Mais là, nous avions déjà effectivement préparé cette mission puisque nous y sommes allés avec l'idée que nous ferions l'étude. Et nous avons amené un théodolite pour prendre des mesures, un ordinateur pour faire des calculs et pour commencer l'étude. Donc nous avions eu la chance de faire connaissance d'une personne qui avait envie de se changer les idées, qui travaillait à la Chambre d'agriculture et qui travaille toujours à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, mais qui souhaitait partir pour une mission ponctuelle en Afrique. Donc on a profité de son rêve et de ses compétences pour l'amener avec nous. Et donc, elle avait les moyens de faire ce qu'elle fait en France, c'est-à-dire qu'en France, elle fait des études de retenue collinaire dans l'Ardèche. Et donc, elle a expérimenté ses compétences à Douguay, au Sénégal, dans d'autres conditions climatiques, géologiques, territoriales. Et c'est en partenariat avec elle et la population qu'on est allé sur les terrains pour faire les études de relevé de terrain. Donc, il fallait commencer par débroussailler le terrain, ce qu'ont fait les populations, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, que nous avons fêté par des fêtes, parce que tout événement se fête. Et suite à ça, eh bien, nous allons donner, au vu des résultats de l'étude théorique, une suite de financement, enfin de financement de calcul, de chiffrage quantitatif et financier de, du projet, ou des deux projets. Donc là, nous avons un relais dont nous avons évoqué le principe. C'est une ONG qui s'appelle le GADEC, que nous avons rencontré et qui est spécialisée dans ce genre de, d'études, et avec qui nous avons eu un très bon contact parce qu'ils ont une démarche qui est assez proche de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire de travailler avec les villageois, avec les populations. Il ne s'agit pas d'aller parachuter un barrage que nous avons étudié en France et de dire ça, ça devrait marcher chez vous. Il s'agit de voir en fonction des demandes des populations comment ça pourrait être utile et utilisé au mieux. Donc cette ONG a les compétences et une certaine proximité géographique pour faire ce travail sur place pour nous. Donc c'est à elle que nous allons probablement confier l'étude de chiffrage et de réalisation en partenariat avec la population. Suite à ça, cet organisme, quand il aura fait un chiffrage en disant on estime le projet à tel chiffre, nous partirons en recherche de financeurs possibles selon l'importance du projet pour trouver les bons sponsors. Et ça peut être des sponsors français comme des sponsors sénégalais. Donc les Sénégalais, de leur côté, vont chercher s'ils ont des moyens pour financer ces projets.
Ça fonctionne un petit peu comme en France. On fait un appel d'offres, quoi, en général, suivant les montants. Hein. Si on est sur des montants trop bas, il n'y aura pas d'appel d'offres, je ne pense pas. Mais si on est sur des opérations assez importantes, c'est comme ici en France, ils font des marchés publics. Donc, un appel d'offres. Après, c'est les entreprises qui répondront. Ben, ça sera soit le mieux disant, soit le mieux disant, pas le moins. Parce que moins, c'est bien, mais c'est techniquement qu'il faut faire l'étude après et voir les propositions qu'ils font, comme en France, quoi. C'était un petit peu ma partie technique quand je travaillais en France.
Là, ce sont des travaux liés à l'eau pour l'agriculture. Pour ce qui concerne l'eau comme boisson, qu'est-ce qui existe actuellement dans ce territoire ?
Dans toute la commune de Douguet, il n'y a que le village de Douguet, le chef-lieu de canton, qui a un château d'eau. Donc l'eau est prélevée à 300 mètres de profondeur, ce qui fait que l'eau est très bonne. Potable, et elle est distribuée dans plusieurs fontaines qui sont réparties dans le village. Ça, c'est un grand luxe. C'est vraiment un super luxe, quoi. Et tous les autres villages ont des puits tout à fait classiques qui sont, comme disait Alain tout à l'heure, à partir d'une vingtaine de mètres de profondeur. Donc, ça n'est pas très profond et il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Donc, mais bon, voilà, il faut éviter de... Voilà, il faut éviter la pollution de l'eau par la présence des troupeaux.
Et le souci souvent sur ces puits existants, ce sont des puits ouverts en général qui font 1,80 m, 2 m de diamètre, mais certains n'ont pas de margelle, donc ils sont au niveau du sol. Il y en a d'ailleurs autour de nous, à Sossotota, à Douguet, on en a vu plein. Et bien là, c'est assez dangereux, d'abord pour les enfants, ça arrive aussi qu'ils tombent, mais c'est surtout pour les animaux. La nuit, donc, la nappe, elle est polluée, quoi. C'est vraiment un réel souci. Et ça évoluera peut-être un jour, mais c'est assez long. C'est assez long. Mais l'idéal, c'est donc un forage, et puis avec des pompes et un château d'eau. Donc, à l'heure actuelle, sur Sotota, il y a un château d'eau en construction qui sera opérationnel fin 2019, quoi.
Contrairement à ici, c'est vrai que dans ces territoires, je suppose qu'on n'a pas accès à vos matériaux aussi facilement pour pouvoir justement construire des margelles ou des choses comme ça. Comment ça
encore
se passe ?
Encore que tout ce qui est ciment, ferraille, donc pour construire ce type de protection, ça se trouve assez facilement sur Tambacounda, même Goudiri, c'est pas très loin, entre 50 km. La mise en œuvre, ils ont aussi des bons techniciens, c'est pas un gros souci. Après, quand on passe sur des grosses opérations style château d'eau avec 30 ou 50 mètres cubes d'eau ou plus, là, c'est des entreprises qui viennent toutes de Dakar pratiquement. C'est toutes les grandes villes, et y compris des entreprises étrangères qui viennent faire les grosses réalisations. Mais tout ce qui est petits travaux comme ça, là par exemple sur le mini barrage avec passage à gué, c'est des réalisations qui vont être faites avec des moyens locaux à peu près. Ça ne va pas aller très loin, quoi. Ce sera sûrement Tambacounda le plus loin, qui amènera peut-être quelques éléments en ciment ou autre chose. Voilà à peu près comment ça se passe souvent. Parce que les trajets sont quand même très longs, très difficile. Et je veux dire, quand on voit les camions dans l'état où ils roulent, si vous n'aviez pas pu participer à la présentation que nous avons faite le 16 janvier, vous avez c'est édifiant de voir dans l'état où sont les véhicules, quoi, qui n'arrivent pas tous à bon port.
Oui, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que vu l'accueil qu'ils nous ont réservé quand on y est allé à chaque fois, moi c'est la troisième fois que j'y vais, et même si effectivement on pourrait imaginer que c'est parce qu'on leur apporte des projets qui les intéressent, mais je crois que spontanément, ils ont une joie de vivre, une capacité d'accueil qui est extraordinaire, et on se sent vraiment... chaleureusement accueillis, et ils disent quand est-ce tu reviendras et vous reviendrez quand, etc. Et on se dit qu'il faudrait qu'il y ait un lendemain à ça, et qu'on n'a pas forcément un barrage sous le bras à chaque fois, que ça mériterait qu'on puisse avoir des liens un peu plus réguliers, et pour des personnes qui n'ont pas forcément des compétences pour un projet. Donc on a recherché un petit peu quelles seraient les possibilités, parce que la difficulté quand on va là-bas, c'est qu'il faut accepter d'être dans des conditions de confort qui n'ont rien à voir avec la France, et que c'est un peu délicat parce qu'on est un peu gênant parce qu'ils ne savent pas où nous loger, même en faisant le mieux possible, c'est toujours un peu spartiate ou voire un peu inconfortable. Voilà, on n'a pas des conditions, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, ça c'est normal, mais même pour tout ce qui est dormir, etc., c'est un peu compliqué pour si on n'accepte pas cette idée-là. Donc ça ne se prête pas à des visite de personnes qui vont avoir du mal à supporter, même au niveau hygiène et santé. Et donc, on a recherché qu'est-ce qui serait possible de faire. Et avec les habitants, ils sont très, très soucieux à l'idée de nous accueillir. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient construire des cases pour accueillir des gens, en disant que ce n'était pas uniquement pour nous, Français, qui allions venir une fois exceptionnellement, mais aussi parce que s'ils veulent qu'on vienne les voir là-bas, même des gens qui viennent de Dakar, des bureaucrates ou autres, c'est important qu'ils puissent les loger pour qu'ils puissent les garder le temps qui est nécessaire. Donc, ils sont conscients que l'hébergement, l'accueil serait utile pour leur développement, leur survie et le maintien des gens au pays. Parce que l'important, c'est ça pour eux, c'est que les gens restent au pays et aient envie de rester là. Ils ne sont pas nombreux, il y a de la terre, mais il faut vouloir y rester. Et donc, on s'est un petit peu intéressé à ça. L'idée qu'eux prennent le relais dans des constructions éventuellement et qu'ils en aient conscience, ils cherchaient tout ce qui pourrait plaire à des touristes, mettons français, entre leur chant, leur danse, les lieux de visite qu'ils pourraient nous proposer, aller voir sur le terrain les réalisations qui ont été faites et leur montrer un peu leur façon de vivre. Ils cherchaient un peu qu'est-ce qui pourrait nous plaire. Et en même temps, on a cherché, nous, des campements qui pourraient nous accueillir et qui étaient tout à fait corrects, qui ne seraient pas très loin. Et on aimerait peut-être jumeler ça avec un tourisme peut-être plus classique, parce qu'il y a un parc animalier qui n'est pas très loin. Donc imaginez que les gens de Diwa Jumelage pourraient aussi aller là-bas pour autre chose qu'une mission technique, mais ne serait-ce que pour entretenir des échanges et se connaître mieux.
En tout cas, c'est quelque chose qui a bien plu aux villageois, puisque on a aussi des contacts avec les personnes qui sont émigrées de ce village et qui se trouvent d'une part en Espagne beaucoup et d'autres à Paris. On a des contacts réguliers avec les personnes qui sont à Paris. Et là, dimanche, j'ai su par un des ressortissants de ce village qu'ils s'étaient réunis le dimanche précédent, donc vraiment ça fait un mois et demi après votre passage, l'association s'était réunie et était partie prenante pour construire des cases d'accueil, et c'est vraiment quelque chose qui leur a bien plu, et c'est dans leur possibilité aussi de construire des cases. Le problème, m'a dit la personne, c'est qu'il fallait qu'ils pensent à récupérer des herbes, du chaume, pour mettre sur les cases. Parce que maintenant, quand les émigrés construisent, ils construisent avec des blocs de béton plutôt. Souvent, ils mettent des tôles, et ce qui est plus inconfortable parce que c'est moins isolant en fait que les cases en toit de chaume. Mais en tout cas, quand il m'a dit ça dimanche, je me suis dit voilà, c'est quelque chose qui a résonné dans leur oreille et qu'ils ont accepté avec joie.
Alors, ces démarches permettent, en somme, à la population locale d'être autonome au niveau alimentaire, surtout par rapport aux légumes et fruits.
Ils sont autonomes, effectivement, ils vivent ou survivent avec leur récolte. Il y a des moments où la période de jonction est un peu difficile, Mais ils vivent aussi sous perfusion souvent de la diaspora qui se trouve donc en Espagne, en France. Et donc beaucoup de familles complètent leur récolte par les subsides de leur famille qui est partie. Et on sent que c'est très difficile de créer de l'espoir qu'ils pourraient se développer et vivre de manière autonome. Et c'est-à-dire que de créer chez les jeunes l'envie, le rêve de rester là. Parce qu'on sent que les jeunes, notamment garçons, sont plus dans le rêve de partir, comme si le projet migratoire vers l'Europe était toujours un paradis sur... Oui, toujours l'Eldorado. On est surpris parce que même les immigrés disent qu'ils n'arrêtent pas de dire que ça n'a pas été facile, que c'est toujours difficile. Un certain nombre sont en France depuis des années, ils travaillent, ils sont régularisés de partout, sauf qu'ils n'ont pas les papiers. Donc ils sont malgré tout dans la clandestinité et ils continuent à alimenter les familles. Et les familles continuent à rêver que leur jeune va pouvoir aller encore chercher des subsides en Europe.
Et pour qu'ils aient une suffisance alimentaire, on en avait parlé l'année passée, et puis le projet ne voit pas le jour. Parce que pour faire rester les gens et pour produire un petit peu plus, il faut des mécaniser quand même, parce qu'ils travaillent encore tout à la main avec une pioche sur le dos, ils ont que ça. Et faire 3 ou 4 hectares d'arachide à la main, ça devient très, 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 très difficile. Et les jeunes, avec les moyens modernes de communication qu'ils ont, tous les téléphones et tout, ils voient bien qu'ils ne resteront pas au village, ils vont tous sur Dakar. Et par contre, quand on a essayé de faire une demande pour faire un envoi de matériel important, style tracteur et tout, là, on ne trouve pas de bailleur de fonds. Personne ne suit ce genre d'opération qui est relativement assez bas. C'est de 8 à 10 000 euros, mais personne, nous n'avons aucune sponsor qui vient donner un peu d'argent pour faire ces envois-là. C'est vraiment dommage parce que si on veut qu'on garder les jeunes au village pour travailler les terres, il faut quand même moderniser un petit peu. Sinon, ils nous le disent eux-mêmes, ils nous le disent, quoi. Ça n'avancera pas, quoi. Mais bon.
Par contre, ils pratiquent beaucoup. Enfin, il y a une certaine solidarité qui se met en place, mais le système coopératif, oui, ils ne le connaissent pas, en fait. Un petit peu. Dans le maraîchage, ça existe quand même, c'est ça, dans la effectivement. Culture. Mais pour le matériel, ça n'est pas encore.
Mais parce qu'ils n'en ont pas.
Comme ils n'ont pas de matériel, ils n'avaient pas besoin de faire des cumas, comme on a fait nous à une certaine époque. Voilà. Donc pour eux, c'est le stade un petit peu nécessaire de se regrouper parce que chacun ne peut pas acheter, à moins d'avoir un immigré qui lui paye son tracteur. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à cultiver chacun dans son coin. Donc je pense que le système de regroupement pour avoir du matériel en commun serait. Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est à eux de faire cette démarche.
Oui, cette démarche.
Il existe un site ou un blog de vos activités visibles pour les auditeurs?
Sur Diwashi Ménage, il y a un blog Sénégal, donc on peut voir diverses choses qui sont mises en jour régulièrement. Et en fait, je voulais parler d'un autre projet aussi qui se met en place. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élèves de terminale du lycée de Di qui vont faire un séjour dans un village qui s'appelle Ndem et Mbaké Kadjor au mois de février. Voilà, l'SPN pour ton sourire, qui vont aller donc du 18 février au 3 mars en séjour là-bas dans ce village. Et du coup, Diwa Jumlach s'est posé la question de savoir comment on pouvait participer un peu à ce séjour, à ce projet. Et du coup, on a eu l'idée de demander à des jeunes, de proposer à des jeunes de nos villages de venir séjourner en même temps que les lycéens français. Donc pour l'instant, c'est en cours. Il y a 6 personnes de nos villages. Elles ont été choisies quand même parlant français pour que les échanges avec ces jeunes lycéens puissent se faire quand même plus commodément. Et donc, il y a normalement 3 filles, 3 garçons qui vont venir séjourner une semaine à Ndem ou Mbaké Kadjor avec les jeunes lycéens d'Iwa. Voilà.
Séjourner et participer au chantier.
Parce que c'est un peu un chantier de jeunes qui participent à une construction et vont participer à ce chantier ensemble. Voilà, c'est un moment de rencontre. On ne sait pas ce qu'il en découlera, mais...
C'est la fin du 12e numéro de Jumelage Actualité avec Jackie Trémouille, Gilberte Isoard et Alain Gourdol.
Et il ne faut pas oublier de citer Céline Gachet, qui a été vraiment la cheville ouvrière du travail qui a été fait. C'est la technicienne qui a fait l'étude de faisabilité et vraiment qui nous a été d'un grand apport, d'une grande richesse.
Et je suppose que vous êtes aussi ouvert aux dons ou aux mécénats de la part des DIWA.
Ah oui, complètement. Mais d'ailleurs, ça s'est déjà produit puisque l'ordinateur a été donné par une famille DIWAZE. L'ordinateur qui a servi aux études. Et puis, oui, il y a des dons qui arrivent, effectivement. Mais c'est tout à fait possible en s'adressant à DIWA Jumelage.
Bonne soirée.
Merci. Bonsoir.
Merci. Au revoir.
Bonsoir.